L'amour de la littérature et de la nourriture ont toujours été de pair chez vous. Vous racontez que tout petit, votre premier livre, vous l'avez mangé en fait.
Oh yes, because it tasted good.
Oui, ça, c'était bon d'ailleurs.
Jim Harrison.
It was salty, you know how children chew
un petit peu
on the corners
salé. Vous savez comment les petits gamins, les bébés, ils aiment bien mâcher un peu tout ce qu'ils trouvent, notamment les coins de table ou les coins de chaise.
Ça peut pas faire de mal.
And of course, as I pointed out in that little story, that
comme je dis dans cette histoire,
early on, I confused food, art, sex.
Très tôt,
so I've never been able to separate.
Très tôt, j'ai tout confondu entre l'amour, l'art, le sexe et la nourriture, et j'ai toujours beaucoup de mal. D'ailleurs, j'ai pas réussi à débrouiller tout ça.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Une femme solitaire roule en voiture. C'est fou ce qu'elle parcourt comme kilomètre. Nulle errance plombée, nulle fuite de soi. Elle va toujours quelque part, elle a toujours quelque chose à faire. Rendre visite, confier un chiot, vernir un chalet, rechercher son fils. Son premier et unique amour est mort. Il s'appelait Duan Cheval de Pierre, était aussi son demi-frère. Et Dalva n'a que 15 ans quand elle abandonne leur enfant. En ce moment, ses amants se nomment Michael ou Sam Embouchure de Rivière, ne sont toujours pas des gars faciles, et quand la mélancolie de Dalva échoue à se dissoudre sur le macadam ou à se recycler dans l'herbe des prairies, elle fait halte la nuit pour regarder le déhanché de la Voie lactée, descend alors au bord d'un arroyo à sec, allume un feu qui fait fuir un scorpion, dresse un lit de camp, se déshabille, nu, écoute le coyote, observe son corps à la lumière des flammes et se dit « J'aime profondément la vie, mais rien en moi ne regrette de vieillir. » Dalva est un grand roman continental. Mieux, Harrison, amoureux de son héroïne, invente une figure de femme continent, majestueuse et hantée, que l'on veut approcher au plus près. Dalva crée la synthèse d'un territoire sous la forme d'une trajectoire merveilleusement libre. La romancière Mélisse de Caringal évoque ici sa découverte lumineuse de Dalva, donc, l'une des pièces maîtresses de l'œuvre romanesque de Jim Harrison, ce grand de la littérature américaine, né en 1937 dans le Michigan et décédé au mois de mars dernier. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de parcourir avec vous quelques morceaux choisis de son premier roman autobiographique, Wolf, Mémoire fictif. Pour ces retrouvailles, je vous propose cette fois d'aller à la rencontre des femmes qui peuplent les livres de Harrison. Il y a Dalva, bien sûr, dont la lecture a marqué plusieurs générations depuis sa sortie en 1988, mais Jim Harrison ne s'est pas arrêté là. Il suffit pour s'en rendre compte de parcourir les titres de ses romans et de ses nouvelles. La femme aux Lucioles, parue en 1990, Julip, en 1994, Épouse républicaine en 2005, ou La fille du fermier en 2009. N'en déplaise aux mauvaises langues, Big Jim, comme le surnommaient ses amis, a fait la part belle aux héroïnes. Il soulignait lui-même lors d'un entretien en 2004, je cite, « Quand on traite mon œuvre de machiste, on oublie que toutes les corrections favorables dans l'existence viennent des femmes. » Et d'ajouter « Il faut avoir une sensibilité féminine. » Si Harrison exprime avec un plaisir évident les mois produits par une belle fille, il fait des femmes bien plus que des objets de désir, des âmes fortes, joueuse et indépendante. Ce soir, partons à la rencontre de quelques-unes d'entre elles. Retrouvons justement Dalva, la femme continent, à un moment décisif de sa vie. Parue en 1988, Dalva marque un tournant dans l'œuvre de Jim Harrison. C'est à la fois son roman le plus ambitieux depuis ses débuts et le premier qui présente un personnage féminin d'une telle envergure. L'intrigue se déploie sur 5 générations et nous fait traverser une bonne partie de l'Amérique. Poursuivie par un homme qui cherche à la tuer, Dalva décide à 40 ans passés de quitter la Californie pour retrouver son Nebraska natal. Là même où son arrière-grand-père, un siècle plus tôt, a été témoin du massacre des Sioux. Ce long voyage est l'occasion pour la narratrice d'éprouver sa liberté en pleine nature. Je suis parti une heure avant le lever du jour, rejoignant la route 10 au milieu de Santa Monica. Plusieurs fois, j'étais rentré à la maison en 3 jours de voiture, mais cette fois, je me donnais entre 1 semaine et 10 jours, voire davantage si l'envie m'en prenait. Il y avait aussi la pensée à peine supportable que je repasserai jamais par ici. J'ai dressé la liste des choses, des gens et des lieux qui allaient me manquer, mais rien ni personne ne m'a remué autant que le souvenir des arbres, et surtout celui du Pacifique, que j'avais écouté pendant tant de jours et de nuits. En début de soirée, j'ai atteint la route en terre à une douzaine de miles avant Ajo, en Arizona, qui était ma première destination. Je me suis engagé vers l'ouest, dans le désert, en direction des montagnes. Quand le chemin a disparu, j'ai suivi le fond d'un arroyo à sec, puis je me suis garé sous un acacia à l'écorce verte. Je suis resté quelques instants immobile à côté de la voiture dans un silence presque complet. Puis j'ai recouvert la voiture d'une bâche légère de camouflage, promesse de discrétion faite autrefois aux deux hommes qui m'avaient emmené ici pour la première fois. J'ai sorti mon sac de couchage d'été ainsi qu'une grosse gourde d'eau, puis je me suis appuyé contre la voiture pour mettre mes bottes de marche. Il restait encore une heure du jour quand j'ai commencé à remonter l'arroyo vers les monts Grolla. Il y avait 20 minutes de marche jusqu'à l'endroit où, des années plus tôt, nous avions caché un lit de camp de l'armée. J'ai trouvé le lit de camp à l'intérieur d'un cairn que nous avions construit. Je l'ai déplié, puis suis allé ramasser du bois pour faire un feu. L'air rafraîchissait enfin, et la sueur qui coulait entre mes seins a séché en me démangeant. J'ai avancé avec précaution entre les cactus cholas, les octillos, les agaves vert clair dont on tire la tequila, et les buissons de houx, ramassant des branches de bois de fer pour mon feu. De retour au camp, j'ai empilé le bois, puis retiré tous mes vêtements avant de m'asseoir nu sur le lit de camp pour regarder la nuit descendre sur les montagnes. L'obscurité ne semblait pas tant descendre qu'engloutir lentement les montagnes à partir de leur base, comme si la terre elle-même diffusait les ténèbres. J'ai frissonné très légèrement de peur en entendant le premier appel de l'effraie qui vit dans les trous qu'elle creuse à l'intérieur du cactus saguaro. J'avais déjà campé là plusieurs fois, et toujours ce frisson me saisissait quand je ressentais l'immense étrangeté du paysage. Je n'avais jamais rencontré personne ici. Les éléments qui constituaient mon moi étaient livrés au désert, au quartier de lune et aux constellations de l'été qui apparaissaient lentement dans le ciel. Comme j'avais toute la nuit devant moi pour regarder les étoiles, je me suis levé du lit de camp afin d'allumer le feu. Un scorpion a détalé pour échapper aux flammes. Je me suis retenu de lui dire bonsoir, à lui ou aux coyotes que j'entendais à quelques miles au sud. Malgré ma faim, je ne mangeais jamais quand je dormais là, désireuse de rester éveillée le plus longtemps possible pour regarder les étoiles. Mes yeux ont quitté le feu qui commençait de prendre, mon regard s'est levé, et j'ai pensé à un passage d'un essai de Lorca. La nuit énorme qui se déhanche contre la voie lactée. J'ai baissé les yeux vers mon corps, mes bras, mon ventre et mes cuisses dorées par la lumière du feu. J'aimais infiniment la vie, mais rien en moi ne regrettait de vieillir. Ce temps qui passe, remontons-le à contre-courant jusqu'aux premiers émois de Dalva. L'enfance paisible de l'héroïne prend fin le jour où un mystérieux adolescent, Duane, fait irruption dans la ferme familiale. Tandis que son grand-père, qui semble le connaître, le prend sous son aile, Dalva tombe d'emblée amoureuse du jeune Indien. L'indifférence initiale de Duane cède peu à peu la place à une attirance réciproque, dont les conséquences marqueront à jamais le destin de Dalva. Découvrons cette scène fondatrice. Ma malchance a débuté avec la religion, mais d'une manière assez innocente. Nous avions toujours fréquenté une petite église méthodiste située à quelques miles. Ce dimanche-là, une vague de chaleur suivait le bref intermède de fraîcheur lors duquel j'étais allé au tipi de Duane. Comme notre pasteur habituel était parti en vacances à Minneapolis, un jeune et beau prêcheur de l'école de théologie le remplaçait. Cet homme plein d'énergie voulait devenir évangéliste. Alors que nous étions habitués aux homélies patelines de notre vieux pasteur, le prêcheur de remplacement abasourdit ses ouailles. Il tonna, rugit, arpenta la travée, secoua physiquement les fidèles. Bref, il nous donna du drame. Pour lui, bon nombre des inventeurs des bombes atomiques et hydrogènes étaient des juifs, des enfants d'Israël. Dieu avait fait appel au peuple élu pour mettre au point la destruction de la planète qui allait provoquer la seconde venue du Christ. Dans la confusion qui s'ensuivit, il fut décidé que nous devions tous être baptisés au cas où des bombes à hydrogène seraient larguées sur nos têtes. Le prêcheur nous donna donc rendez-vous au trou d'eau situé près de notre ferme dès que le pique-nique serait prêt et les vêtements convenables réunis, soit n'importe quelle tenue à peu près blanche. Nous nous sommes donc retrouvés en milieu d'après-midi et la cérémonie s'est déroulée sans incident. Il faisait une telle canicule que l'eau paraissait spécialement fraîche et agréable. Ma mère, qui regardait Ruth, Charlène et moi dans nos robes blanches trempées, a déclaré que cela ne pouvait pas nous faire de mal. Alors que je m'essuyais le visage avec une serviette, j'ai entendu un oiseau siffler et compris que c'était Duane. Quand les autres sont partis manger, je me suis glissé dans un bosquet d'arbres d'où j'ai aperçu Duane en selle sur son sprinter. « Qu'est-ce que vous aviez à batifoler dans la rivière comme des singes » m'a-t-il demandé. « Eh bien, nous nous sommes fait baptiser en prévision d'une guerre et de la fin du monde. » Je me sentais un peu stupide et très nu dans ma robe blanche mouillée. J'ai fait un geste pour me cacher, puis y renoncé. Il m'a dit de monter sur son cheval avec lui, ce qui m'a surprise car il ne me l'avait jamais proposé. Il sentait l'alcool, ce qui m'a également étonné car il déclarait volontiers que l'alcool était un poison qui tuait les Sioux. Près du tipi, il a posé la main sur mes fesses nues quand je suis descendu de son cheval et que mes vêtements mouillés sont remontés sur mes hanches. Il m'a tendu une bouteille de vin de prune. J'ai bu une longue goulée, puis ses bras m'ont enlacé. Ça ne me plaît pas beaucoup que tu te fasses baptiser. Comment peux-tu être mon ami si tu es baptisé et que tu chantes ces chansons ? Comme ses lèvres étaient tout près des miennes, je les ai embrassées pour la première fois. Ça a été plus fort que moi. Il a passé la robe par-dessus ma tête et l'a jetée dans l'herbe. Il a reculé d'un pas pour me regarder, puis il a poussé un cri, une sorte de hurlement. Nous sommes entrés dans sa tente, nous avons fait l'amour, et ça a été la sensation la plus étrange de toute mon existence. Comme si je marchais sur les planches d'une porte de cellier chauffée par le soleil et que mes jambes n'assuraient plus l'équilibre de mon corps. Je regardais ses yeux mi-clos en sentant qu'il ne pouvait pas me voir, et ma position, genoux repliés très en arrière contre mon buste, avait quelque chose d'un peu risible. Je n'avais pas l'impression de faire beaucoup d'efforts. Duane dirigeait tout. Mais j'ai pensé que ça me plaisait énormément de faire glisser mes mains sur son dos trempé de sueur jusqu'à ses fesses. Vers la fin, il m'a serré violemment contre lui, comme s'il voulait me faire entrer de force dans son corps. Et lorsqu'il a roulé sur le côté, il soufflait à un cheval après un long galop. Ensuite, il s'est endormi dans la tente surchauffée, et j'ai entendu très loin ma mère sonner sa cloche. Je suis sorti dans la fin de l'après-midi et j'ai enfilé ma robe humide. J'ai couru tout du long faisant une seule halte pour une rapide baignade. Je me suis demandé si les autres allaient me trouver différente. Je n'ai jamais revu Duane, sinon 15 ans après.
Dans mon roman, Dalva, on me demande souvent de quoi il s'agit et je dis que le personnage principal ou alors le thème principal, c'est celui de l'attente, du désir insatisfait, une sorte de mélange comme ça. Un petit peu ce que chante Cesaria Evora dans une chanson Saudade, c'est ce sentiment d'attente et de désir.
Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, seu inglão. Saudade, 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 desse minha terra, seu inglão. Saudade, 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 desse minha terra, sem inclão. Saudade, 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 desse minha terra, sem inclão. Saudade, 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 desce minha terra, sem inclão. Saudade, 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 desce minha terra, sem inclão.
Découvrons à présent les prémices d'un amour interdit. En 1979, Jim Harrison publie son premier succès, Légende d'automne, recueil de trois novellas parues en France chez Robert Laffont dans la traduction de Serge Lenz. La première de ces trois intrigues, Une vengeance, met en scène les conséquences dramatiques d'un adultère. Cochrane, ancien pilote de chasse divorcé, s'attire l'amitié de Tibet, mexicain puissant et fortuné. Or, celui-ci est marié à une jeune femme ensorcelante, Miriea. Dans la scène qui suit, on assiste au basculement du fragile équilibre du trio. Cochrane joua au tennis chez Tibet durant plus de trois mois avant que Miriea ne lui manifeste autre chose qu'une courtoisie un peu distante. Un soir, à l'issue d'un dîner trop bruyant et trop arrosé, tandis que les hommes alignaient des paris sur une partie de billard et que les femmes papotaient des dernières tendances de Givenchy, elle le surprit en train de feuilleter quelques livres dans la bibliothèque. La merveilleuse créature s'approcha de lui tandis qu'il feuilletait un recueil de Lorca richement relié en cuir. Jusqu'à ce moment, Cochrane n'éprouva devant elle qu'une certaine confusion, issue du peu d'attention qu'elle lui manifestait. La situation était tellement empreinte de réserve que lorsqu'elle venait vers lui, une bonne partie de son aisance l'abandonnait aussitôt. Le moindre de ses regards le plongeait dans l'embarras. Étant un ami de Tibet, il pensait qu'elle le voyait comme une relation d'affaires un peu inconstante et il tentait de modifier cette opinion par des moyens subtils. Lorsqu'elle entra dans la bibliothèque, il réalisa brusquement qu'il se trouvait en tête à tête pour la première fois. D'un doigt, elle releva le livre qu'il tenait à la main afin d'en déchiffrer le titre. Elle eut un sourire et cita « Je veux dormir le songe des pommes, loin du tumulte des cimetières. » Il pensa qu'il n'avait jamais rien entendu de plus beau, et sans pourprendre comme un collégien, il leva les yeux au plafond et répondit par une autre citation de Lorca « Ton ventre est un entrelac de racines, tes lèvres sont une aube sans limite, sous les roses alanguies qui couvrent le lit, les morts gémissent, attendant leur tour. » Elle le fixa durant un long moment. Il sentit battre ses tempes. Elle rougit légèrement et détourna son regard. Il voulut détendre l'atmosphère en prononçant une phrase sans importance, mais il ne trouva pas les mots. Elle leva le menton comme pour observer quelque chose au loin. Il regarda sa gorge et crut déceler un parfum mêlé de trèfle et d'orange. Le livre lui échappa des mains. Elle eut un rire clair et quitta la pièce. Il avala son cognac d'une seule lampée, toussa et ses yeux s'emplirent de larmes. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il arpenta son appartement durant des heures, incapable de trouver le sommeil malgré les pilules et l'alcool. À l'aube, il résolut d'entreprendre un long voyage. Depuis l'âge de 18 ans, il n'avait jamais lié de rapport dont il ne soit pas certain d'être complètement maître. Mirieha lui rappelait ses portraits de Modigliani vus dans un musée de Paris. Devant l'un des tableaux, il s'était dit très clairement « Voilà une femme que je pourrais aimer ». C'était ridicule, bien sûr. Il s'éveilla en début d'après-midi, on frappait à la porte et le cauchemar reprenait. Mirieha lui a envoyé un coursier chargé de livres reliés, tous annotés de sa main. Il y avait également un message. « Ce sont mes livres favoris. J'espère que vous les aimerez. » Mirieha. En post-scriptum, elle ajoutait « La lumière de la connaissance m'a rendu très prudent. » Il but 3 tasses de café, la 3e fortement additionnée de cognac. Puis il entreprit de chercher la source de cette citation qu'il pensait être de Lorca. Il la trouva dans la femme infidèle. Il se versa un nouveau verre de cognac et saisit le téléphone. Un domestique lui répondit que le seigneur Mendes se trouvait à Mérida. Il n'osa pas demander Mirieha. Il se mit à tourner dans la salle de séjour en jurant. Il lui était maintenant impossible d'arriver chez Tibet sous le simple prétexte de le voir. Les domestiques avaient tous des allures de garde du corps. Pour la première fois, il s'autorisa à imaginer Mirieha entièrement nue. Il jura et jeta brutalement son verre contre le mur. Il forma à nouveau le numéro de Tibet en espérant que cette fois Mirieha décrocherait elle-même. Le même serviteur répondit à la sonnerie. Il enfila ses chaussures de marche en se disant qu'une longue promenade dans le désert lui calmerait peut-être les nerfs. Il était sur le point de partir lorsque la voiture de Mirieha vint se ranger contre la sienne dans le parking. Il en fut tellement stupéfait qu'il ne sut rien lui répondre lorsqu'elle annonça qu'il ne devait nullement modifier ses projets pour elle. Elle lissa ses cheveux en arrière, ajusta son écharpe et éclata de rire devant sa mine interloquée. Il s'avança, prit sa main et la baisa. Elle-même se pencha et baisa la main de Cochrane. Puis elle la mordit légèrement et rit encore. « Il y a longtemps que je songeais à venir vous retrouver. »
Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert Keats, J'ai eu le sentiment que je devais être pasteur, prêcheur.
But I remember the exact moment I got baptized in the water.
Oui, j'ai été baptisé dans l'eau.
But the girls that got baptized in the water, you could see through their dresses.
Mais les filles qui étaient également baptisées dans l'eau avec moi, on voyait à travers leurs robes.
So you're pulled back and forth.
Donc on est sans arrêt tiré à U et à Dia.
So away goes religion.
Et au revoir la religion.
Tout aussi fascinante est Béatrice, la désirable serveuse que l'on croise dans Chien Brun. Mais celle-ci s'avère plus difficile à conquérir. Jim Harrison avouait porter une tendresse toute particulière pour le personnage de Chien Brun, un anti-héros dont les frasques lui ont inspiré plusieurs livres. Cet incorrigible hors-la-loi apparaît pour la première fois dans la nouvelle qui ouvre le recueil « La femme aux lucioles », paru en 1990 et traduit aux éditions Christian Bourgois l'année suivante. Découvrons-le adolescent, dans la chaleur torride de Chicago, pensionnaire d'un institut religieux en proie aux affres du désir. Béatrice, une serveuse aux fesses plantureuses, officier dans une gargote proche de l'école. C'était une beauté sombre, mais lorsque je lui demandais sa nationalité, elle me répondit « De quoi je me mêle, espèce de petit têtard de bénitier ?» Où que nous allions, il nous fallait en effet transporter notre Bible avec nous. Je pris sans doute une mine si abattue qu'elle s'approcha de moi quand j'ai fini mes céréales et elle m'apprit qu'elle était à moitié noire et à moitié italienne. Je lui rétorquai qu'elle était pour moi la plus belle femme du monde. J'étais assis là dans ma chambre à rêver de Béatrice en refusant de m'épuiser à force de pensées impures quand j'ouvris la lettre de l'église. Elle contenait un chèque de 390 $. Le trésorier de l'église d'Escanaba avait commis une erreur, m'envoyant directement le chèque de ma bourse au lieu de l'adresser au Bible Institute. Les possibilités faramineuses qui s'offraient soudain à moi me frappèrent comme un éclair et je tombai à genoux dans l'espoir de trouver une force qui n'arriva pas. Je filai à la banque, puis marchai d'un pas tremblant vers la gargote et un dîner précoce. Arrivant au restaurant, je pris une table entière dans le secteur de Béatrice et commandai une entrecôte avec toutes ses garnitures. Comme Béatrice ne croyait pas que j'avais de quoi payer, je lui montrai mon rouleau de billets et elle sourit. J'ai était devenu irrésistible entre le petit déjeuner et le dîner. Je me sentis, je l'avoue, dans la peau d'un caïd lorsque je demandais à Béatrice de sortir avec moi. Tu cherches quelqu'un pour te confier ou pour tirer un coup à l'œil? Dans les deux cas, la réponse est non. Je serais bien bête de croire qu'il existe quoi que ce soit de gratuit à Chicago, sauf le soleil de plomb et l'air vicié, lui répliquai-je du tac au tac. Elle me donna donc son adresse et me dit de passer à 9h, à condition que j'aie un billet de $50 en poche. Je répondis que j'y serais, même si $50 était la plus grosse somme que j'ai jamais dépensée en une semaine. Cela et bien d'autres angoisses rendirent les 3 heures suivantes passablement inconfortables. De retour dans ma chambrette, j'avais le sentiment de lutter contre Satan, et je savais que son pouvoir l'emporterait inéluctablement. Je priais, faillis pleurer et grinçais même des dents. Dans la chambre voisine, Fred, un pauvre gamin de l'Indiana qui étudiait aussi au Moody Bible Institute, entendit mes lamentations et vint prier avec moi. Je ne lui avouais bien sûr pas la raison de mes tracas. Comment osais-je dépenser ainsi $50 rassemblés grâce aux oboles des pauvres de ma paroisse? Lorsque je m'en rendis dans son petit appartement, Béatrice avait gardé sa tenue de serveuse et préparé un dîner tardif pour un petit garçon d'environ 4 ans. Pendant qu'elle prenait sa douche, je lus une bonne dizaine de fois à ce gamin un livre intitulé « La tortue Yolande », piètre échauffement avant l'amour. Béatrice sortit de la salle de bain en peignoir de satin bleu, puis elle accompagna l'enfant au bout du couloir jusqu'à son babysitter. Nous allâmes dans la chambre et tout fut consommé en moins de 3 minutes. Ce que j'avais acheté, elle plaça un menu express composé d'un hors-d'œuvre à la française et d'un plat de résistance internationale. Elle retira son peignoir et ne porta plus qu'un minuscule bikini rouge. La tête me tournait à force de retenir ma respiration à mon insu. Elle défit mon pantalon, le laissa tomber autour de mes chevilles, s'occupa de ma queue pendant quelques secondes. Dès que je gémis, elle bondit sur ses pieds, retira sa petite culotte et se rallongea. J'étais à peine en place que je jouis et retombai en arrière sur le plancher. Désespéré, je levai les yeux vers le cul de Béatrice, puis elle se retourna en éclatant de rire, remit son peignoir et passa dans l'autre pièce en riant toujours. J'essayai de lui poser une main sur le sein, mais d'une tape, elle me fit battre en retraite. J'eus bientôt une boule dans la gorge et je me levai pour partir tandis que la honte suintait par tous les pores de ma peau. Elle m'arrêta en déclarant que $20 supplémentaires suffiraient à transformer notre accord initial en tarif horaire. Elle fit glisser un sein hors de son peignoir et j'acceptai aussitôt. Mais il me fallait d'abord faire la vaisselle car on avait ras-le-bol des assiettes et de la mangeaille. Me retournant, j'avisai Béatrice vautrée sur le canapé. Elle avait retiré son peignoir, ne conservant que sa petite culotte rouge. Elle lisait la revue Life. Je me demandais une chose. Le temps passé à faire la vaisselle est-il compris dans l'heure que j'ai achetée?
Ça dépend d'un tas de facteurs. À propos, je prendrais bien une autre bière.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Wasted and wounded, it ain't what the moon did. God, would I pay? Can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me? I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my stasis are soaking wet. I do go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dogs are barking and the tax
Nazi camps parking. A lot they can do for me. I begged you to stay with me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Old Bushmills, I staggered. You buried the dagger. Your silhouette. And the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy. Say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing. It's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
Au-delà de son talent pour les scènes cocasses, Jim Harrison est aussi un remarquable observateur de l'âme humaine. Dans la nouvelle « La femme aux lucioles » parue dans le recueil du même nom, il nous plonge avec une grande acuité dans l'intériorité bouleversée d'une épouse républicaine. À 50 ans, Claire forme avec Donald un couple aisé et enviable aux yeux de tous. Dans le passage qui suit, elle s'apprête pourtant à prendre une décision radicale. Elle n'avait pas encore accepté comme réelles les crispations de son estomac et le petit point vert douloureux au centre de son crâne, symptôme annonciateur d'une migraine. Son mari, assis à côté d'elle dans la voiture, mit une cassette intitulée « Les meilleurs blues du moment », qui ne contenait aucune musique noire, mais le ronronnement monotone d'un rapport sur les produits financiers vedettes, une cassette qu'il recevait chaque semaine de New York. Celle-ci, vieille de 7 jours, était déjà périmée. Il l'avait écoutée 3 fois pendant leur voyage, mais Donald la rejoint afin d'en avoir pour son argent. Cette bande a interrompu l'histoire du soldat de Stravinsky, diffusée par une station d'Iowa City, un morceau qu'elle écoutait toujours avec grand plaisir. « Ça ne t'ennuie pas, ma chérie ?» demanda-t-il. « Pas du tout », répondit-elle, en partie parce que les médecins de la clinique de l'Arizona spécialisés dans le traitement des douleurs lui avaient conseillé de ne pas résister aux agressions extérieures lorsqu'elle devinait l'imminence d'une migraine. Claire aurait 50 ans dans une semaine. À 51 ans, Donald voulait encore avancer dans la vie. Une attitude envers laquelle Claire éprouvait des sentiments mitigés. Ils venaient de rendre visite à leur fille Laurel, une vétérinaire de 29 ans, mariée à un autre vétérinaire. La visite avait été écourtée de 2 jours à cause d'une querelle entre Donald et leur fille. Avant de rentrer chez eux, ils comptaient passer le week-end avec leur fils, Donald Jr., qui à 27 ans est un crack du marketing à Chicago.
Les investisseurs institutionnels baissent les bras,
s'écria soudain Donald d'une voix si forte que Claire freina machinalement. Elle pensa tout à coup que Donald était seulement heureux de gagner de l'argent lorsque d'autres en perdaient, moyennant quoi elle jugeait futile ce jeu de vases communicants qui obsédait son mari comme une activité essentielle de l'existence. L'apparition d'une infime douleur sous son crâne lui fit repousser ses réflexions. Dieu merci, la cassette sur le Blue Chips de Wall Street était finie, mais Donald sifflotait maintenant la marche du colonel Boogie en tapotant son rythme martial sur le téléphone de la voiture, anticipant ainsi sa conversation quotidienne avec son courtier. Un panneau annonçait une aire de repos dans 15 kilomètres. « Il va falloir que je m'arrête pendant que tu téléphones, je ne me sens pas très bien », dit-elle en appréhendant la réaction de son mari. « Parfait, chérie, nous avons tout le temps devant nous. » Donald regarda sa montre. « Tu pourrais même faire une petite sieste à Davenport. » Claire dirigea la voiture vers l'aire de repos, roulant au pas. Elle descendit de voiture avec le sac buitonnier que Donald lui avait acheté pendant leur séjour à Florence. Une main déjà posée sur le téléphone, pressée de passer son appel quotidien, Donald lui fit signe de l'autre. Elle le regarda composer le numéro, puis se dirigea vers le centre d'accueil de l'Iowa et les toilettes contiguës, tandis que le sang commençait de lui marteler les tempes dans la chaleur bruyante. Lorsqu'elle y repensa ensuite, Claire s'étonna de la calme lucidité de son esprit pourtant assiégé par la douleur. Le mur vert du champ de maïs situé derrière le centre d'accueil acquit une luminosité stupéfiante. Pivotant sur ses talons, elle retourna vers Donald et la voiture, mais il était en pleine négociation financière et d'une voix tranchante d'homme d'affaires demandait « Enfin bon sang, qu'est-il arrivé à Isomet ?» Dans les toilettes, elle vérifia que son sac contenait bien certaines choses. La boussole de scout de Donald Jr. qu'elle utilisait lors de ses promenades avec son ami Zilpha, une petite boîte de jus d'érelle, l'adresse de 3 jeunes orphelins à qui elle écrivait et qu'elle aidait à éduquer au Mexique, à Saint-Domingue et au Costa Rica, une trousse en cuir contenant son passeport et la nouvelle traduction de Tao To King, et, tout au fond, le plus important, le béret beige acheté 30 ans plus tôt rue Saint-Jacques et qu'elle n'avait jamais porté. Après sa licence en littérature comparée à l'Université du Michigan, elle devait étudier à Paris pendant 1 an, mais son séjour dura seulement 3 semaines à cause de la mort de son père. À cette époque, Donald incarnait la rébellion de la jeune fille, car ce fils unique d'une famille ouvrière de Flint était un étudiant en sciences très politisé, qui portait des chemises de bûcheron et désirait devenir écrivain ou dirigeant ouvrier. Lors de leur rendez-vous, ils se lisaient USA, la trilogie romanesque de Dos Passos. Curieusement, Donald avait assez plu au père de Claire, lequel avait peut-être deviné l'homme que deviendrait son futur gendre. Maintenant, dans les toilettes, elle mit enfin ce béret et rit doucement. C'était si facile. Le mot qu'elle rédigea fut bref. « Je suis dans une petite voiture rouge qui se dirige vers l'est. Mon mari me bat. Ne croyez pas un mot de ses explications. Contactez ma fille. » Elle ajouta le numéro de téléphone de Laurel, écrivit « pour la police » sur l'enveloppe, qu'elle colla sur le côté du miroir avec un timbre-poste. Derrière le centre d'accueil, un petit garçon qui promenait le chien de la famille tint le sac de Claire pendant qu'elle franchissait la clôture, une opération plus délicate qu'elle l'avait supposée. Une fois de l'autre côté, elle perdit quelques secondes à expliquer au garçonnet pourquoi il ne pouvait pas l'accompagner, puis le chien se mit à aboyer et elle s'élança entre 2 rangées de maïs vers l'intérieur des terres, quoi qu'il lui réservât.
Religion comes out of incomprehension.
La religion vient de l'incompréhension.
The minister said to me that Mozart comes from Satan.
Quand le prêcheur ou le pasteur plutôt m'a dit que Mozart était l'œuvre du diable.
I realized I can't give up Mozart.
Et je me suis posé la question de savoir si je devais continuer à écouter Mozart.
So I have to change. So then, gradually, my religion becomes literature.
Donc, petit à petit, il y a eu une espèce de revirement chez moi et ma vraie religion est devenue la littérature.
Pour conclure ce parcours consacré à Jim Harrison, je vous propose de découvrir le testament mélancolique de ce grand amoureux des femmes. Voici un extrait du vieux saltimbanque, autobiographie posthume parue quelques semaines seulement après la mort de Jim Harrison et publiée en septembre chez Flammarion. Dans la veine de ses deux précédents opus autobiographiques, Wolf et En marge, l'écrivain brouille les pistes et choisit ici la troisième personne pour, je cite, « échapper à l'illusion de réalité propre à l'autobiographie ». Derrière l'ironie, le temps semble avoir rattrapé Big Jim, qui se confie dans ce premier chapitre avec une sincérité désarmante. Le plus grand chamboulement de son vieil âge fut la disparition à 70 ans de sa sexualité. Le médecin s'autorisa une remarque déplacée quand il lui expliqua le problème. Il se mit en colère et le médecin déclara que cela arrivait à tout le monde. Il y avait un banc devant l'hôtel de ville où les cinq mêmes croulants s'installaient tous les jours. Ce banc, on l'appelait le banc des bites mortes. Il existait désormais des médicaments disponibles et une blague courait à la taverne. Si t'as une érection de plus de 3 heures, va au bowling Starlight Alley's, le soir réservé aux femmes, et fais leur part de ton problème, tu auras droit à une séance de gymnastique gratuite. Malgré tout, la perspective de prendre un comprimé pour bander lui laissait un goût amer. Il n'avait pu s'empêcher d'essayer une fois l'année précédente lors de la rencontre annuelle de la Modern Language Association à Washington, ville qu'il détestait pour des raisons politiques, mais qu'il tolérait quand elle accueillait de vieux amis écrivains. Il prit pour cible une étudiante en master à qui il avait fait l'amour des années plus tôt quand elle était en deuxième année. Le prix à payer était la rédaction d'une lettre de recommandation dithyrambique pour le programme d'écriture créative de Hunter College à New York. Il accepta aussitôt ce marché. Elle était un peu potelée, mais avait eu autrefois un beau corps. Après avoir dîné et bien bu, ils rejoignirent la chambre du vieux poète au Mayflower. Elle était pressée car elle devait voir un ancien petit ami qui lui aussi enseignait l'écriture. Malheureusement, le comprimé donnait une désagréable teinte vert foncé au mur gris de la chambre et il jouit en une minute. Il s'excusa, puis elle partit retrouver son ancien copain sans avoir transpiré. À sa grande surprise, il remarqua en regardant CNN qu'il bandait toujours. De toute évidence, un effet du médicament. Il sortit dans la rue en se disant qu'il rencontrerait peut-être une professionnelle acceptable, ce qui arriva à quelques rues de la Maison-Blanche. Tous deux déambulèrent un moment en parlant musique, sujet qui lui mit la puce à l'oreille. Un ami médecin lui avait fortement déconseillé de coucher avec une prostituée qui fréquentait des musiciens, car il y avait un taux de sida très élevé chez ce genre de fille. Une fois encore, il s'excusa, lui donna 20 dollars pour la parlotte, puis retrouva son hôtel. Il pouvait dire avec précision quand le désir s'était envolé ou quand il avait remarqué sa disparition. C'était un après-midi de la fin août 2013. Il faisait chaud et il occupait une table à la taverne. Il était seul car il arrivait toujours à 4 heures alors que ses amis, moins pressés que lui, débarquaient à 5 heures. Il y avait deux filles au bar, dont l'une, en mini-jupe estivale, se tortillait sur son tabouret. C'était fascinant, ou du moins ses déhanchements l'auraient été par le passé. Il ne réagit pas. Il se pinça légèrement pour s'assurer qu'il était bien vivant. Non, le rideau était tombé. Et il se demanda s'il devait incriminer le gros rhume contracté récemment. En tout cas, il ne ressentit pas cette violente morsure de lubricité qui aurait dû l'envahir. Dans un passé guère éloigné, quelques minutes plus tôt pour être exact, il se serait rué au bar pour payer les coups à ses deux filles, les baratiner, glisser dans la conversation « Je reviens tout juste de New York où j'ai vu mon éditeur », reluquer les cuisses soyeuses de la guicheuse et imaginer le splendide pubis de cette délurée sur son oreiller, pas si solitaire que ça. Les amis de la donzelle arrivèrent bientôt et les filles s'en allèrent, mais pas sans que l'allumeuse ne lui adresse un clin d'œil. Tout ce cinéma pour son corps désormais insensible. Il ne parvint même pas à lui retourner son clin d'œil, car une chape de plomb venait de tomber sur son âme. Il ressassa longtemps cette expérience insignifiante, mais qui n'avait rien d'insignifiant à ses yeux. Elle évoquait le roulement de tonnerre qui annonce le jugement dernier. Dès sa prime jeunesse, il avait consacré tout son temps à penser aux femmes.
Qu'est-ce qui fait que vous avez été naturellement du côté des minorités, et notamment des Indiens?
Oh, well, that was natural. I was had to be quite radical, so when I was very young, I went to see Martin Luther King, you know.
Ça me paraît parfaitement naturel, dans la mesure où tout mon passé indiquait déjà cette tendance. J'ai un passé de gauchiste. J'allais voir Martin Luther King. J'étais très amoureux de Anne Frank. Et cet attrait pour les minorités s'explique aussi par le fait qu'aux États-Unis, en tout cas, tous les écrivains sont des parias. Donc ça va de soi.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Philippe Bredin. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Claire Tesser et Péric Malinge. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Thank you.